Et le message que j'ai à cœur de vous partager ce dimanche, je pense, fera écho aussi aux différents messages qu'on a entendus ces derniers dimanches qui vous ont été apportés par différentes personnes. Dimanche passé, je vous encourage à écouter le message d'Isabelle sur Dieu accomplit ses promesses, mais... Et c'est vraiment, vraiment riche, si vous n'étiez pas là, à écouter ou réécouter. On avait entendu un dimanche d'avant, dirigé par la fidélité de Dieu. Simon nous avait partagé combat et soit un vainqueur. Et je pense que le message que j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui, eh bien, va aussi dans cette ligne. Cette ligne. Le thème de ce matin, c'est « Vivez la victoire avec Jean 19, 30, où Jésus va dire « Tout est accompli sur la croix ». Et ça nous occupera un petit peu ce matin. Mais vous connaissez le jeu de l'échelle ? Le jeu de l'échelle avec le toboggan ou les serpents, enfin, voilà. Hein ? On descend, on remonte, et puis au gré de la fluctuation des choses, on monte, on descend, c'est un petit peu le hasard qui nous fait avancer. On espère que le dé va tomber sur un bon chiffre, voilà, et on va avancer. J'ai l'impression que dans notre vie chrétienne, on se comporte parfois aussi comme ça. Au gré du hasard, au gré des circonstances, et on subit certaines choses. On est là en disant, ben, on n'a pas de chance, on fait partie de ceux qui ont la poisse. Et l'image du jeu de l'échelle et des serpents, c'est aussi une métaphore puissante qui représente bien aussi comment certains chrétiens vivent leur relation avec Dieu. Une alternance de victoire et d'échec, de progrès et de rechute. Mais cette image ne correspond pas à la réalité de la vie chrétienne telle que Dieu, selon moi, l'a conçue. Et ce matin, eh bien, je veux nous inviter à découvrir une vérité qui peut transformer aussi radicalement notre manière de marcher avec Dieu, marcher avec le Seigneur, et de se dire, nous sommes sous la faveur de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça ? Nous sommes sous la faveur de Dieu, véritablement. Le message de l'Évangile est clair, en Christ, tout est accompli. Jésus va le dire, donc ça doit être quand même vrai. Lisons dans Éphésiens 2, 1 à 10, ce texte pour rappel aussi, pour mémoire, de différents éléments particulièrement importants. Éphésiens 2, 1 à 10, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est bien marqué, hein, vous étiez morts. Ça veut dire que maintenant vous êtes vivants. Ça veut dire que maintenant nous sommes vivants. Ce n'est pas vous serez vivants, mais vous étiez, mais maintenant vous êtes vivants. On poursuit au verset 5. « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. » Je ne sais pas si vous remarquez le présent aussi, il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et on se comporte comme si c'était quelque chose de très loin à obtenir. Un long parcours avec ce jeu de l'échelle où tout à coup, hop, on monte, puis on redescend, zut le toboggan, on redescend. On va poursuivre. Verset 8. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est par la grâce. Le message de l'Évangile est clair. Il est limpide. En Christ, tout est accompli. on est déjà. On est ressuscité. On est dans la victoire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas dit que vous serez sauvés à l'issue de ce parcours, à l'issue de la vie. C'est maintenant que vous êtes sauvés. Et il y a trop de personnes, je crois, qui doutent de leur salut et qui vivent leur vie comme ce jeu de l'échelle en disant « De nouveau, je me suis encoublé. De nouveau, j'ai fait ceci. De nouveau, j'ai fait cela. Est-ce que je vais être disqualifié ?» C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Le mot « Évangile », et c'est peut-être malheureux qu'il soit retranscrit ou qu'on l'appelle comme ça en français, « Évangile », parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Pour nous, évangile, si tu dis à quelqu'un l'évangile, ok, l'évangile, ça vient du mot grec euangelion qui signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu. Et pour vous, ça signifie quoi, évangile? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ou est-ce que c'est un petit peu, on est bientôt à Noël, hein, entre on a rajouté le père Fouettard ou des trucs comme ça, est-ce que la bonne nouvelle, c'est... Juste d'essayer de ne pas ramasser trop de coups? Non, ce n'est pas ça du tout. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Autrement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si tu rajoutes le « mais », après, ce n'est plus une bonne nouvelle. Et en raison des difficultés, et merci Seigneur pour le message aussi transmis dimanche passé, en raison de ces difficultés, parfois on doute de ces bonnes nouvelles. Parce qu'on s'attend à certaines choses. Et ce n'est pas une simple affirmation théologique, une réalité qui touche chaque aspect de notre vie spirituelle, non. On va voir ensemble ce matin trois points clés qui peuvent changer notre perspective sur la foi et nous libérer aussi de ce cycle frustrant des échecs, des réussites que certains connaissent si bien. Trop souvent, tu montes, tu redescends, tu montes, tu descends, et finalement, tu as l'impression que tu passes ta vie à des joies, des peines, et à vivre de joie et de peine. Et on va voir l'illusion des échelles, du jeu des échelles, et tous ces serpents. Ça nous fait penser peut-être à Adam et Ève, qui ont été mordus aussi par le serpent, enfin, qui ont été mordus par son influence, pas physiquement mordus, mais qui ont été mordus par ses tactiques. Et on va voir aussi la puissance du « tout est accompli » ce matin, et comment on peut être libéré aussi du cycle des inquiétudes. Mais dans ce jeu des échelles, et c'est mon premier point, l'illusion des échelles et des serpents dans la vie, dans ce jeu des échelles, eh bien, l'objectif, c'est d'atteindre le sommet du plateau, évidemment. Qui a envie de rester au numéro 14? Qui a envie de s'arrêter au numéro 78? Ou qui a envie de s'arrêter au numéro 99? Mais personne. Moi, j'aime pas perdre, hein. Ça, c'est un secret pour... Personne de ceux qui me connaissent. Je ne sais pas si vous aimez perdre, faites-moi signe, comme ça je viendrai jouer avec vous. Ça m'arrange. À chaque pas en avant, il y a ce risque de tomber en arrière. Et on jette le dé. On jette le dé et hop, tac, on jette combien ça arrive. Oh zut, j'arrive sur le toboggan. J'ai mis les toboggans, je trouve plus sympa que les serpents, mais beaucoup de chrétiens vivent leur foi de cette manière et ils voient la vie chrétienne comme une série d'efforts pour monter vers Dieu, pour atteindre sa faveur et être digne de sa bénédiction. On va faire comme dire, mais Seigneur, t'as vu comment je suis bien, comment j'ai fait des efforts, je mérite quand même une bénédiction, Seigneur. Et on va faire toute notre vie en essayant de tirer le bon numéro. Et pouf, des fois, ce n'est pas le bon numéro et on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait encore ?» Ou on s'est trompé. Toute une série d'efforts. On grimpe les échelles des bonnes œuvres, la prière, la sainteté personnelle, croyant qu'à chaque effort réussi, eh bien on se rapproche un petit peu plus du ciel. Mais à chaque péché, chaque échec, c'est la chute. Et on a l'impression de revenir au point de départ comme si on était sur un toboggan. Et ça nous ramène en bas du plateau de la vie chrétienne. Là, on se dit, chouette, cette fois, je suis au 65. J'arrive un petit peu plus haut. Combien de fois on est comme ça? Combien de fois on est comme ça? Et ce modèle est frustrant, n'est-ce pas? Peut-être vous vous reconnaissez un petit peu dans cette illustration. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette frustration, ce sentiment d'échec, de découragement. Vous vous efforcez de faire de votre mieux pour plaire à Dieu. Mais un seul faux pas, une seule chute, ça semble effacer tous les progrès accomplis. On se retrouve à la case départ. Ou pas tout à fait à la case départ, mais on se dit « La chute n'était pas trop violente. Cette fois, je vais continuer de progresser. » Puis badaboum. Et on ressent de la culpabilité, du doute, parfois même sur Dieu, sur sa bonté. Parfois même, on doute d'être à la hauteur. Et je crois sincèrement que c'est une vision faussée de la vie chrétienne, une illusion qui nous enferme dans un cycle sans fin. Sans fin. Pourquoi c'est fou ? Et j'imagine qu'il y a plein de versets qui vous viennent en tête, où vous dites, mais voilà, Paul va dire ceci et cela, on y reviendra. Pourquoi c'est faux ? Parce que ça repose sur l'idée que notre relation avec Dieu dépend de nos efforts et de notre réussite. Et qu'à chaque échec, eh bien, chaque échec nous fait perdre sa faveur. Mais ce n'est pas la Bible. Ça, ce n'est pas la Bible qui nous enseigne ça. Le salut ne se gagne pas par nos œuvres, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Le salut ne se gagne pas par vos œuvres, pas par votre mérite, pas par vos diplômes, mais se gagne par la grâce de Dieu. Ephésiens 2, 6 à 10, il est dit, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, et nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il y a vraiment une clé. Je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est à venir, c'est déjà maintenant. Donc, on est déjà sur 100. Et ces versets renversent complètement la logique du jeu des échelles et des serpents. Ils nous montrent que le salut ne dépend pas de nos bonnes actions ni de nos échecs, hein, mais uniquement de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de case départ, en fait. Il n'y a pas de case de départ à laquelle on serait ramené à chaque faute. En réalité, la vie chrétienne ne fonctionne pas du tout comme ce jeu. Le départ, c'est ça. Et c'est mon deuxième point. Tout est accompli. On est à l'arrivée déjà. On est à l'arrivée. Et là, il y a d'autres versets de l'apôtre Paul qui vous viennent en tête. J'y reviendrai. Ça mène au deuxième point qui est essentiel. Christ a déjà tout accompli, tout ce qui est nécessaire pour le salut. Et le plus grand mensonge auquel beaucoup de chrétiens adhèrent, c'est celui-ci. Ils pensent que leur relation avec Dieu commence par des efforts personnels. Et toute notre vie, on vit dans ce sentiment. Peut-être vous venez du catholicisme où il faut faire des choses, Et on est conditionné comme ça. Évidemment, dans le monde du travail, c'est souvent aussi on va récompenser celui qui travaille bien. On va récompenser, en principe, ça devrait être comme ça. Et on est conditionné par « je fais, donc je reçois ». Mais là, c'est « je suis, donc je reçois ». Et c'est très différent. C'est très différent. On pense que notre relation avec Dieu commence avec ses efforts et qu'on doit grimper des échelons pour atteindre la sainteté, le salut et oh, maintenant, enfin, je suis pasteur. Wow, super, ben, que nenni. Je vous mets au défi d'être tous pasteurs, vous verrez qu'on reste profondément humain. Le toboggan est grand. La Bible nous enseigne véritablement le contraire, qu'il n'y a pas ces échelons. On ne commence pas notre marche avec Dieu en bas de l'échelle, on débute directement à la case d'arrivée. Directement. Amen. Et vous me direz, 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. C'est dommage qu'on s'arrête au début. La couronne est donnée à tous ceux qui ont aimé l'apparition de Jésus. Tous ceux qui se sont réjouis de sa venue sur terre. Tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Nous, on croit que c'est la course. Oui, bien évidemment. Si tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà les pieds au ciel ou la tête, c'est comme Jésus finalement. Il est venu sur cette terre, mais il est resté profondément ancré dans le ciel. Et c'est parce qu'il était profondément ancré dans le ciel, il n'était pas pour autant moins sur la terre. Mais son identité, il la puisait dans son déjà, dans cette case 100, dans ce tout est accompli. Dans ce tout est accompli. Et trop souvent, on pense ou on a compris, on nous a fait comprendre qu'il fallait, si possible, avec ce jeu de l'échelle, arriver jusqu'à la case 100. Et puis qu'on y arrive au bon moment parce qu'il faut y arriver. Et tant de personnes continuent de croire qu'elles portent la responsabilité de leur salut. Laissez-moi vous dire, au risque de vous décevoir, que le salut ne dépend pas de vous, mais dépend de Jésus-Christ. Et notre condition même de pécheur nous empêche de procurer quoi que ce soit au niveau du salut. Nos moyens humains ne peuvent rien. On a besoin d'un sauveur. Et si pour vous, marcher avec Dieu signifie vous efforcer de tout faire correctement afin de gagner son approbation, sa récompense, vous allez continuellement être déçu. Continuellement être déçu. Et vous allez faire juste pour être vu. Être vu de Dieu, être vu des autres. Parce que ça nous encourage quand on reconnaît aussi certaines choses qu'on fait de bien. Et ça nous dit, ouais, ben, Dieu doit le voir aussi si les autres le voient. Mais la motivation change. La motivation change. Ça ne veut pas dire qu'on va être moins bien. Hein. Je ne suis pas en train de dire faites n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ça. Jésus était d'en haut, mais il est resté d'en haut. Et déjà, c'est dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce qu'on est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes? Ou on attend d'être mort pour y être? La Bible dit que déjà maintenant, vous pouvez avoir cette condition-là. Et c'est ça qui nous donne la force de résister à la tentation, de résister au diable. Si on vit déjà dans cette identité, avec cette nouvelle identité, et quand on fonctionne ainsi, on s'acharne de plaire. Et finalement, rien semble efficace. On repart à zéro avec toute la volonté qui s'impose. Et on recommence cette ascension de l'échelle des bonnes œuvres. Paul va dire, mais vous êtes, ça va quoi, vous avez perdu la tête. L'apôtre Paul a traité de ce problème la mentalité des serpents et des échelles dans la plupart de ses épîtres adressées aux églises locales de l'époque. Et il trouvait impensable que les chrétiens puissent essayer d'accomplir par eux-mêmes ce que Christ avait déjà accompli pour eux. Il va dire, au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Au début, on se rend compte que tout est grâce. Puis petit à petit, il y a ce sentiment, ce peut-être besoin de reconnaissance, besoin de dire, mais voilà, je suis quand même mieux que les autres. J'y arrive par moi-même. Mais lorsqu'on est dans ce truc, j'y arrive par moi-même, c'est là qu'il y a ce grand risque, le toboggan. Et Paul le dit aux Galates, Galates 3:3, avant vous comptiez par l'esprit, puis maintenant vous y allez avec juste vos connaissances. Et je crois que dans notre 21e siècle, il y a ce risque-là, on veut tout apprendre. Tout apprendre et peut-être que, je me répète, c'est important d'apprendre. D'apprendre certaines choses, d'étudier. Et c'est super important. Hein. Je ne suis pas en train de minimiser ça. Mais l'onction, ça ne prend pas. ça se reçoit. Séminaire de guérison, séminaire de trucs, séminaire de machin, séminaire comment prier avec la bonne technique, la bonne parole. Mais ça ne s'apprend pas. Oui, il y a des clés, mais j'espère que dans ce genre de rencontre, on apprend comment être plus proche du cœur de Dieu, surtout. Parce que l'onction, vous pensez aussi ceux qui ont essayé de chasser des démons et autres, ils se sont retrouvés agressés en disant « Je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous... » Donc on peut bien dire des formules ou essayer de crier ou de faire une gestuelle, rien du tout. Le diable n'est pas impressionné, puis Jésus encore moins. Ce cœur à cœur. Être déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Si vous êtes en Christ, votre récompense est acquise. Et on est dans ce « tout est accompli » de Jean 19, 30. En cette simple phrase que Jésus a prononcée sur la croix alors qu'il était à l'agonie, toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la souffrance du Messie ont été accomplies. La loi, avec toutes ses cérémonies, est abolie et accomplie. La lumière est venue ici-bas, toutes les ombres du péché ont été chassées. Si je vis déjà comme étant au ciel, il y a beaucoup de choses que naturellement je ne serai plus tenté de faire. Parce que j'ai déjà goûté à la bonté du Seigneur. Le châtiment qu'on mérite par nos transgressions fait place à la justice éternelle. Et les souffrances de Jésus sont désormais terminées, celles de son âme, celles de son corps. On n'a plus rien à rajouter à ces souffrances, et l'œuvre de la rédemption de l'homme et du salut est déjà achevée. À la croix, c'est déjà achevé. Et c'est très difficile à capter, à saisir ça, parce qu'on est encore sur cette terre, bien vivant, bien en chair. Ouais. La vie de Christ lui a pas été prise de force, il l'a offerte librement. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie que notre point de départ dans la vie chrétienne, ce n'est pas un lieu d'effort humain, mais un lieu de victoire déjà remporté, parce que Christ a déjà remporté. Et on a à s'asseoir dans cette vérité, à s'asseoir. Et je crois que si on a vraiment saisi ça, on va, pour beaucoup de choses, arrêter de subir. Arrêter de subir. Lorsqu'on croit en Christ, on ne commence pas une course spirituelle en espérant atteindre la victoire un jour, non. On commence à partir de la victoire que Christ a déjà obtenue pour nous. Et le sommet qu'on espère atteindre, il est déjà atteint par Christ. Il est déjà là. Le salut qu'on croit devoir mériter, il a déjà été donné gratuitement. C'est ce que j'ai lu dans ces textes d'Éphésiens tout à l'heure. La vie chrétienne ne consiste pas à grimper vers Dieu, mais à vivre à partir de la position que Christ nous a déjà donnée en lui. Et en Christ, on est déjà en haut de l'échelle et ça change tout. Si on comprend ça, on ne vivra plus dans la peur tombée ni dans la culpabilité de ne pas être à la hauteur. On n'essayera plus de mériter ce que Dieu a déjà donné. On marchera dans la liberté, la paix et la sécurité de savoir que tout est accompli et on n'a plus à grimper vers Dieu. Parce qu'il nous a déjà placés au sommet. Il nous a déjà placés au sommet. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis. Ce n'est pas dit « il va nous bénir » si on a déjà cette bénédiction, on a déjà tout reçu en Christ. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un voyage pour obtenir quelque chose, mais une découverte. Toute notre vie, une découverte de ce qu'on a déjà en Jésus. Une découverte, être assis, une découverte de la bonté, une découverte de la grâce, une découverte du pardon, une découverte de cette victoire. Et c'est ainsi qu'on peut être libéré, délivré du cercle de culpabilité et des inquiétudes. C'est ce troisième point que je vous partage ce matin. Ce troisième point découle de ces deux précédents aussi. Lorsqu'on comprend qu'on est déjà en Christ et qu'on vit à partir de la case d'arrivée. Ne vivez pas à partir de la case de départ, mais vivez à partir de la case d'arrivée. Alors qu'on est libéré du cycle de culpabilité et d'inquiétude. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'angoisse de ne pas être assez bon. Quand on demande à quelqu'un « est-ce que tu es sûr d'être sauvé ?» Souvent les gens... J'entends souvent, trop souvent, j'espère. j'espère. Ça veut dire qu'il y a du doute. Ou on n'ose pas, par fausse modestie, affirmer ce que Christ a voulu qu'on ait comme certitude. Chaque fois qu'on commet une faute, on se sent comme avoir perdu la faveur de Dieu, comme si on doit recommencer. Et cette manière de penser pose une fausse conception, sur une fausse conception de Dieu. Dieu ne nous aime pas à cause de nos performances, il nous aime à cause de Christ. S'il nous aimait à cause de nos performances, on serait bien malheureux, en tout cas moi. Mais il nous aime à cause de Jésus-Christ, à cause de son salut, parce qu'il est venu sur cette terre, parce qu'il a tout accompli. Et sa faveur, pour nous, ne fluctifie pas en fonction de nos réussites, de nos échecs. On est sous la grâce de Dieu, et cette grâce est inébranlable. C'est tellement important, mes amis. C'est capital. C'est capital d'arrêter de vivre en espérant atteindre le Saint Graal, le ciel. On a déjà, si vraiment on a donné notre cœur à Jésus, rejeté le doute. Lorsqu'on vit dans cette grâce, on est libéré de la peur de l'échec. On n'a plus craindre de dégringoler chaque fois qu'on fait une erreur. On est ancré en Christ et rien ne peut nous arracher de cette position. Jésus nous a donné une assurance éternelle dans Jean 10, versets 28 et 29. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Mes brebis qui entendent ma voix, est-ce que vous entendez la voix de Jésus? Est-ce que vous êtes de ces brebis du Seigneur? Est-ce que le psaume 23, vous pouvez vous l'approprier? L'Éternel est mon berger. C'est pas sera mon berger lorsque je serai au ciel. C'est le Seigneur est mon berger. La vie chrétienne, c'est plus un parcours d'obstacles, mais un chemin de découverte de l'amour et de la fidélité de Dieu, mes amis. Et en comprenant que tout est déjà accompli, eh bien, on peut vivre dans la joie, dans la liberté, dans la confiance de cette œuvre parfaite. Et la culpabilité, la honte, l'inquiétude n'ont plus de place dans notre vie lorsqu'on sait bien que notre salut est déjà assuré. Moi, je crois sincèrement que ça influence même nos prières. Si on est assis déjà avec Christ, s'il y a cette proximité, si on est déjà au ciel tout en étant encore sur cette terre, évidemment, mais Christ nous a montré aussi ce chemin, cette possibilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Christ n'était pas moins au ciel alors qu'il a été pendant ses 33 ans sur la terre. Il était pleinement dans son statut de fils de Dieu. Et c'est ce qu'on vit par le salut. C'est ce qu'on vit par l'œuvre de la croix. C'est ce qu'on se rappellera aussi en prenant la Sainte Cène tout à l'heure. Eh bien, qu'on peut être encore sur cette terre tout en étant déjà au ciel. Et ça change notre comportement, ça change notre foi, ça change notre perception de l'amour de Dieu. Ça change notre perception de la grâce aussi. Alors je reviens à cette question que je vous ai posée au début. Le mot évangile, comme je l'ai dit, vient du mot grec euangelion qui signifie bonne nouvelle. Est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle pour vous? Ou vous rajoutez mais? Oui, mais... Une bonne nouvelle doit être une bonne nouvelle. Ça n'enlève rien qu'il y a des difficultés parfois sur la terre. L'apôtre Paul a vécu des difficultés. Jésus a vécu des difficultés. Jésus a été méprisé. On lui a même craché au visage, tout en étant fils de Dieu qu'il était. Jésus a connu la souffrance. Jésus a souffert. Mais il n'était pas moins au ciel. Il n'était pas moins au ciel. Alors revenons à l'image du jeu de l'échelle. Tout est accompli. Ce jeu est frustrant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que chaque progrès peut être annulé par une chute, mais la vie chrétienne ne fonctionne pas ainsi. On ne vit pas dans ce cycle. En Christ, on a déjà atteint la victoire. Déjà atteint la victoire. Déjà, la vie chrétienne est une vie de liberté, une vie de découverte, de l'amour inconditionnel de Dieu. On n'a plus à grimper des échelons, à espérer peut-être éventuellement si je suis assez bon, si je mérite. Parce que notre salut est assuré par Christ. Revenez à ces textes que j'ai lus ce matin. En comprenant cette vérité, eh bien, on peut marcher dans la paix, la confiance, la joie, sachant qu'on est sous la faveur de Dieu déjà maintenant. Et ce matin, eh bien, je vous invite à abandonner le jeu des échelles et des serpents ou du toboggan. Venez à Christ, découvrez que tout est accompli pour vous. Découvrez ça ou redécouvrez que tout est accompli. Venez à Christ. La victoire vous appartient non pas à cause de vos efforts, mais parce que Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli pour vous. En lui, vous êtes déjà plus que vainqueur. Et David, au psaume 51, va dire « Rends-moi la joie de ton salut. » Est-ce que vous savez encore vous réjouir pour le salut? Ou c'est un fait historique qui a été accompli il y a quelques années? Est-ce que tous les jours, ça nous fait tressaillir de joie? Sortez de l'illusion, ce jeu de l'échelle. Vivez dans ce tout accompli et soyez libérés du cycle de la culpabilité et des inquiétudes. J'aimerais juste, pour terminer, lire Romains 8, à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Romains 8, 35 à 39. J'ai l'assurance. Est-ce que ce matin, certaines personnes veulent dire, mais moi je vais arrêter ce yo-yo du jeu de l'échelle. Je vais arrêter. Et j'ai envie de vivre dans ce déjà. Ce déjà. Je veux être dans ce assis avec Christ dans les lieux célestes. Peut-être plusieurs personnes, vous vous rendez compte, vous dysfonctionnez. On peut fermer les yeux, juste réfléchir. Vous dysfonctionnez dans votre relation avec Dieu. Vous avez toujours l'impression de devoir prouver à Dieu, prouver aux autres. Peut-être ce matin, vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus pour plusieurs. Ou plusieurs, vous n'avez pas cette assurance du salut en Jésus-Christ. Cette assurance que Christ, si Christ revient aujourd'hui, vous n'avez pas cette certitude qu'aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Pensez aux brigands qui étaient à côté de Jésus. Ce brigand qui méritait la crucifixion, qui méritait la mort. Un s'est moqué de Jésus, l'a méprisé. L'autre a reconnu Christ comme Seigneur. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, il n'avait rien accompli de bon. Il était à l'agonie sur la croix. Mais aujourd'hui même, tu peux, même si tu ne te sens pas à la hauteur, dire oui Seigneur, je veux te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Je veux te recevoir. Seigneur, je veux vivre non plus comme sur tout un parcours difficile à accomplir, mais Seigneur, je veux vivre en tant que fils ou fille de Dieu, dans ce déjà, déjà au ciel, mais encore sur cette terre. Je veux avoir cette conviction par le Saint-Esprit que je suis un fils ou une fille de Dieu. Ce matin, tu peux avoir ces choses-là. Tu peux être délié de tous ces faux raisonnements. Tu peux être délié du salaire au mérite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au ciel. Sur la terre, oui. Mais au ciel, il n'y a pas de salaire au mérite. Peut-être tu te sens nul, pour utiliser un terme que tu as peut-être trop souvent utilisé, « je suis nul ». Mais ne méprise pas la personne que tu es, parce que c'est Christ qui t'a créé. Non, tu n'es pas un nul. Par le simple fait déjà que Christ t'a créé et t'a donné la vie. Et ce matin, tu peux changer d'attitude. Tu peux recevoir la grâce, la paix et marcher dans cette victoire. Si vraiment tu veux que ça change, aujourd'hui, et dire depuis aujourd'hui, je ne veux plus essayer de faire ce parcours du combattant, mais je veux recevoir cette grâce de me sentir déjà au ciel, parce que c'est ce que Christ dit. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Je veux aujourd'hui être assis avec Christ dans les lieux célestes. Moi, je t'invite à te lever à ta place. Juste, j'aimerais prier. Pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir cette conviction, aujourd'hui tu puisses avoir cette certitude du salut, pour qu'aujourd'hui tu sois délié de ce cercle infernal du jeu de l'échelle. Lève-toi à ta place. Seigneur Jésus, tu sondes les sentiments et les cœurs, et Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour des certitudes que tu accordes à ces frères, ces sœurs qui se sont levés. Seigneur, merci de leur donner de pouvoir vivre ce que ta parole dit, de pouvoir pas vivre à partir de cette case départ tout en bas, mais de pouvoir vivre à partir de cette case d'arrivée. Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur, que tous ces faux raisonnements soient brisés dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton pardon, ta grâce et ta victoire déjà acquise à la croix. Et que ce tout est accompli puisse résonner. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.